Et la question que nous vous posions hier était importante à la suite de la conférence qui a réuni la plupart des chefs d'État des pays arabes à Doha. Eh bien, les accords de paix entre Israël et les pays arabes sont-ils, selon vous, en danger, oui ou non? Eh bien, figurez-vous que sur Facebook, vous êtes à 70% à penser que oui, ces accords sont en danger. Vous êtes 66% à penser que oui sur Insta, et sur X, vous êtes extrêmement partagé puisque vous êtes à 50-50. Alors ce matin, pour essayer d'y voir un peu plus clair, nous avons invité David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Lise, vous parlez de tout cela avec lui. Je suis impatient de connaître son avis.
David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs pensent effectivement que les accords de paix entre Israël et les pays arabes sont en danger. Est-ce que vous êtes, vous aussi, de cet avis?
Ah, il y a incontestablement une situation où les accords qui ont été signés sont affectés, et ceux qui avaient vocation à pouvoir l'être sont largement hypothéqués. Je pense notamment à l'accord qui aurait parachevé le processus avec l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, effectivement, tout est suspendu à minima, puisque la situation qui prévaut à Gaza, notamment, amène les différents interlocuteurs, les différents États régionaux à reconsidérer effectivement toute idée de normalisation, tadbir en arabe, avec l'État hébreu.
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure, David Rigoulet-Rose. Là, vous venez de parler d'accords potentiels. L'Arabie Saoudite, c'est vrai, on en parlait beaucoup. Et une des raisons pour lesquelles le Hamas a fait le 7 octobre à cette date-là, c'était parce que la normalisation semblait un peu trop imminente à ses yeux. Il y a deux autres choses dont je voulais parler avec vous. C'est les accords d'Abraham, d'un côté, et comment réagissent les pays qui les ont signés depuis le 7 octobre et depuis la guerre à Gaza. Et de l'autre, il y a les accords anciens avec des voisins d'Israël comme l'Égypte et la Jordanie qui menaçaient justement ces derniers jours de les remettre en cause.
Alors oui, en fait, il y a trois situations. Il y a les accords anciens, effectivement, que vous évoquez, la paix avec l'Égypte en 79, ensuite en 94 avec la Jordanie, et puis les accords plus récents d'Abraham avec notamment Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, et puis troisième situation, les accords qui étaient en attente. Voilà. Donc, dans tous les cas, la situation, de toute façon, affecte effectivement les relations entre Israël et les pays en question. On l'a vu notamment lors de déclarations jugées intempestives par rapport à la colonisation en Cisjordanie, par rapport même à au Grand Israël, évoqué un moment par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui irait au-delà d'ailleurs des territoires palestiniens au sens strict du terme. Et donc le Caire notamment avait menacé de revoir effectivement dans ce cas-là l'accord avec Israël. La Jordanie était sur la même ligne, d'autant plus qu'il y avait la question de la pression et de l'expulsion éventuelle, la relocalisation entre guillemets de Palestiniens simultanément en Jordanie et en Égypte, ce qui est inconcevable pour ces deux pays pour des raisons de stabilité interne. Et puis il y a la deuxième situation effectivement qui remonte aux accords d'Abraham du 15 septembre 2020, hein, signé Washington, sous le premier mandat de Donald Trump, avec Bahreïn et les Émirats. Il faut rappeler qu'à l'époque, d'ailleurs, les Émirats Arabes Unis s'étaient félicités d'avoir réussi, entre guillemets, à suspendre les plans d'annexion annoncés par Benjamin Netanyahou à l'époque, de grande partie de la Cisjordanie, déjà, à savoir la vallée du Jourdain, et puis 60% de la zone C des accords d'Oslo et 40% des zones A et B. Et le Premier ministre à l'époque avait dit que ça avait été simplement reporté. Or, il se trouve que l'annonce récente par son ministre Bezalel Smotrich d'une colonie E1, justement à Jérusalem, un point très sensible, qui couperait potentiellement la Cisjordanie en deux en isolant Ramallah de Bethléem à partir de Jérusalem, a relancé évidemment le débat. Et à cette occasion, les Émirats Arabes Unis ont considéré que ça trahissait l'esprit de l'accord d'Abraham qui avait été finalisé en septembre 20. C'est dire que l'atmosphère a beaucoup changé depuis septembre 2020.
Tout de même, David Rigoulet-Rose, les pays qui ont signé les accords d'Abraham sont assez light, si j'ose dire. depuis le début de la guerre à Gaza. On n'a pas entendu beaucoup de condamnations de la part des Émirats arabes unis, du Maroc ou du Bahreïn. Et même cette semaine, lors de la réunion de la Ligue arabe qui a condamné Israël après les frappes contre les chefs du Hamas à Doha, ces trois pays n'avaient pas envoyé leurs plus hauts représentants, mais seulement des délégués. Donc on voit bien qu'ils essayent tout de même de limiter la casse, si j'ose dire.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage qui est fait. Il ne s'agit pas d'annuler purement et simplement ce qui a été fait, qui était considéré comme une amélioration de la situation au niveau régional. Mais en même temps, il y a une insatisfaction avérée. Cet arbitrage, il se fait par rapport à ce qui est perçu de manière commune comme la menace iranienne. Mais en même temps, il y a, à contrario, aussi une inquiétude sur ce qui est perçu désormais comme une forme d'hégémonie militaire régionale israélienne, avec des projections sur plusieurs pays, jusqu'au Yémen, sans parler d'ailleurs de l'Iran en tant que tel. Et donc, il y a une inquiétude sourde quand même de la part de ces pays. Vous évoquez la réunion effectivement à Doha, à la fois de la Ligue arabe et de l'OCI. Hein, c'était une réunion à des pays arabo-musulmans, une cinquantaine, avec des représentants à des niveaux différents. Pour autant, il y a eu quand même une condamnation évidemment de ce qui a été présenté comme l'agression israélienne sur le Qatar. Et il faut noter quand même que les réactions ont été assez rapides tout de même de deux pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, au profit du Qatar qui pourtant, par le passé, avait fait l'objet de critiques très fortes de la part de ces pays. On peut penser à la mise au banc du Qatar en 2017 avant sa réintégration au sein du CCG. Donc c'est dire qu'il y a des contradictions qui sont sous-jacentes, mais qui en tout cas sont l'expression quand même d'une inquiétude sourde de la part de ces pays.
Alors tout de même, David Rigoulet-Rose, c'est vrai que c'était un succès diplomatique entre guillemets pour le Qatar d'avoir réussi à réunir près de 60 pays à Doha pour cette réunion, mais néanmoins le sommet s'est contenté de condamner Israël sans donner véritablement de mécanismes concrets sur le terrain. Donc, pour Israël, c'est pas une réunion qui finalement a eu tellement d'importance ou de conséquences.
Oui, mais effectivement, de manière immédiate, ça n'en a pas, et ça s'explique aussi parce que les pays en question, notamment l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, n'entendaient pas donner des gages à Téhéran qui réclamait justement des sanctions. Et donc, il ne s'agissait pas de ne pas faire le jeu de Téhéran. Sur le fond, néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est largement négatif sur le long terme. C'est-à-dire que la confiance est relative, et elle l'est aussi par rapport à l'administration américaine. Parce que les pays en question ont le sentiment que la garantie américaine, et là je pense particulièrement au Qatar avec la principale base de l'USNCOM hein, qui est sur le sol, était d'une certaine manière une assurance-vie de sanctuarisation. Et il se trouve que c'est ça qui a été en jeu dans l'opération unilatérale israélienne justement sur Doha. C'est bien ce qui est reproché d'ailleurs au président américain par les pays en question.
Mais tout de même, David Rigoulet-Rose, le Qatar joue double jeu depuis le début de cette guerre. Il y a clairement son rôle de médiateur, certes, mais aussi son rôle de financier en chef du Hamas et accueillant des dirigeants les plus importants du groupe terroriste.
Ouais, c'est le problème de la supposée duplicité, effectivement, de Doha, stigmatisé par le premier ministre israélien, et qui l'avait été d'ailleurs par le passé, lors du premier mandat de Donald Trump. Mais aujourd'hui, le même Donald Trump considère que c'est un allié essentiel. Donc on voit bien à quel point les contradictions jouent pour tous les acteurs.
Alors la position des Émirats Arabes Unis, qui a été mise aussi à l'honneur cette semaine, c'était que pour Abu Dhabi, le vrai problème, ce serait plutôt une tentative israélienne d'annexer des territoires en Judée-Samarie, plutôt que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.
Oui, c'est pour ça que j'évoquais justement lors des accords du 15 septembre 2020 du ministre des Affaires étrangères émirati à l'époque, qui avait justement fait valoir que il justifiait cette normalisation avec Israël justement au motif qu'il était parvenu à empêcher à hypothéquer les plans d'annexion qui étaient dans le programme du Premier ministre. Or, aujourd'hui, l'annonce de la colonie en question récente, des 3 400 logements justement dans la zone que j'évoquais près de Jérusalem, et qui avait toujours été différé, y compris parce que les différentes administrations américaines ne souhaitaient pas que ça se fasse. Aujourd'hui, cette annonce, évidemment, tombe très mal pour Abu Dhabi, puisque c'était un élément qui avait pu justifier justement le succès des accords en question. Et vous évoquez ce problème parce qu'effectivement, ça a été soulevé. Je faisais mention du fait qu'il y a une forme de la part des Émiratis, le sentiment d'une trahison au moins de l'esprit. Justement de l'accord du 15 septembre 2020, et c'est évidemment pour la suite de mauvais augure pour d'éventuelles normalisations de pays qui n'ont pas encore effectué ce qui ne sont pas rentrés dans cette dynamique.
Alors, c'est vrai qu'il y a vraiment des partisans des deux côtés, hein, David Rigoulet-Rose. On entend beaucoup de gens dire qu'il y a un véritable danger pour les accords d'Abraham, d'autres qui disent que finalement. Par exemple, à Dubaï, c'est exactement comme d'habitude. Il y a toujours autant d'Israéliens, il y a toujours autant de coopération. Il n'y a pas véritablement de problème dans les accords. Est-ce que aujourd'hui, quand les Israéliens sont menacés quasiment partout dans le monde, ils sont des cibles plus ou moins qu'en Europe quand ils sont dans des pays comme Abu Dhabi, par exemple?
Non, pas nécessairement, parce qu'effectivement, les liens ne sont pas rompus, loin de là. Ils ont toujours été étroits, notamment sur le plan sécuritaire. Et en matière de, justement, de sécurité pour les touristes ou les hommes d'affaires, sont des pays où il y a le niveau de surveillance est tel que, effectivement, il n'y a pas forcément plus qu'en Europe de menaces. Cela dit, cette menace, elle existe partout. Et donc, hélas, l'actualité récente a montré que effectivement, il fallait que l'attention, la vigilance soit au plus haut niveau partout dans tous les pays. Mais ça, en l'occurrence, effectivement, c'est pas forcément ce qui est remis en cause. Ce qui est remis en cause éventuellement, ce qui est affecté, c'est la perception de la pertinence de l'approfondissement de cette dynamique, même si sur le fond, elle ne sera pas remise en cause. Parce qu'en toile de fond, de toute façon, il y a quelque chose qui prévaut et qui a largement été à l'origine d'ailleurs de ce processus. C'est la représentation de la menace iranienne et qui est commune. Donc, c'est pour ça que j'évoquais une forme d'arbitrage complexe.
Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous, à très
Merci,
vite.
au revoir.